capire.
Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM, radiogalère.org et sur le DAB+ Canal 8C. Vous êtes dans l'émission de Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. Et puis aussi, la semaine dernière, on n'était pas là, mais il était prévu une petite rediffusion qui n'a pas pu passer parce qu'il y a eu un gros bug technique vers 10h à Radio Galère. Et merci à Cebu qui a continué à vous mettre de la musique arménienne jusqu'à environ 11h30. Et puis merci beaucoup à Sidi qui est venu pour tout rétablir. Donc nous on est là en direct avec Lamine. À tout de suite.
I'm not.
Bonjour Gaï, Marlène Nuyen Nyop, c'est un tour accent sante. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, Richard et moi, donc pour dialoguer, discuter, échanger avec vous. Et aujourd'hui, c'est votre émission. Profitez, c'est de la consultation gratuite. Nous allons avoir un médecin sur le plateau. Voilà, comme vous le savez, le Ramadan va démarrer certainement le week-end prochain. Et malheureusement, nous avons beaucoup de diabétiques dans la population, même ceux qui ne font pas le Ramadan. Donc, venez poser des questions au spécialiste du diabète, le docteur Martin Carvalho, donc, qui est aussi endocrinologue, qui est aussi nutritionniste. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est votre émission. Profitez. J'en parlerai un tout petit peu. Donc, oui, je pose des questions dès le départ, un peu, mais après, si vous voulez, je vais me taire et c'est à vous d'appeler. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de carte vitale, ni même d'aide médicale d'État. Voilà, juste 04 91 08 28 10. Voilà, donc Richard, en attendant que le docteur Martin Carvalho arrive, donc écoute, on va juste écouter un peu de musique.
Bama jange am xam xam laj ko ñu teew bo bëgge deug deug ding ma deug way bi jugge ci xol jaar ci xel gene ci gaming sar sa nopp laal sa xol de sa bop feñ sey jëf ay perte walaay demal ma dem. Demal ma dem, yeah, demal ma dem. I feel like I gotta
oui,
do what
Richard,
I gotta.
Donc, en attendant que le docteur arrive, quelques informations. Voilà, donc, vous savez qu'on va changer l'heure, hein, Richard. Tu le sais, ça, au moins.
Hein? Oui, c'est ce soir, c'est le dernier week-end d'hiver.
Eh bien, donc profitez, en plus aussi c'est le dernier week-end avant le début du Ramadan.
On perd une heure. Hein?
Bon, c'est pas grave, on va le rattraper ailleurs et autrement. Voilà, donc l'heure va changer cette nuit. Hein? N'oubliez pas, je crois à 2h, il sera 3h du matin. Et puis, Richard, tu sais que Macky Sall a fait 10 ans au pouvoir, hein? Ah oui, 10 ans au pouvoir. Voilà, donc c'est des petites infos pour mes amis à Paris et du Sénégal. Voilà. Et puis, ah oui, Richard, il y a un journaliste, Cheikh Yérim Seck. Voilà, lui, il a dit qu'il va quitter la vue publique. Enfin, il a quitté la vue publique au lendemain de la libération de son fils, Richard. Son fils a été arrêté. Hein, il était en prison. Et comme par hasard, dès qu'il a été libéré, il arrête la vue publique. Bon, tout le monde se pose des questions. On dit, est-ce qu'il n'y a pas un deal quelque part? Voilà. Est-ce que, bon, voilà. Donc, mais bon, écoutez, c'est une information que je vous donne. Hein, c'est, voilà. Et puis aussi, oui, important, très important. Le consulat général du Sénégal à Marseille donc, va ouvrir exceptionnellement, enfin, a ouvert depuis 9h ses portes, aujourd'hui samedi et demain dimanche. Parce que, Richard, c'est la révision sur les listes électorales. Donc, pour vos pièces d'identité, si on avait mis que vous n'avez pas le droit de voter, vous pouvez y aller. Si on avait fait une erreur sur votre nom, vous pouvez y aller, etc. Donc, voilà, profitez. Toute la semaine, ils travaillent. Peut-être vous aussi, vous travaillez, vous ne pouvez pas. Mais je pense qu'ici en France, on ne peut pas travailler et toute la semaine et tout le week-end. Voilà. Hein, Richard? Enfin, à moins que... Si, il y a des gens qui travaillent 7 sur 7. 24 sur 24
Non, normalement, non.
Logiquement, non. Hein, voilà. Donc, il y a les inspecteurs du travail qui veillent quand même. Hein. Voilà, donc,
sauf si c'est des travail non déclarés, je ne sais pas.
Ah, Richard, tu veux parler du travail au noir?
Voilà, ouais.
Ouais, nous, on est des noirs et toi, tu te permets. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, Minginondal, n'oubliez pas d'aller au consulat samedi, dimanche, 9h-17h pour tous ceux qui ont des problèmes par rapport à leur carte d'identité. Voilà, pour les élections, élections législatives du 31 juillet. Écoute, en attendant que le docteur Martin Carvalho soit sur le plateau, je crois qu'on a déjà un auditeur en ligne. Allô, allô?
Allô, Lamine.
Oui, bonjour.
Bonjour Lamine, comment va?
Ça va, ça va. Coucou Biratchoun, Aix-en-Provence.
Ouais, c'est moi Lamine, comment va?
Ça va, alhamdoulilah. Donc, nous l'avons dit, le monde entier t'écoute. Sama Sénégalais, il n'est que fele, nous, tonton, papa Yali, nous l'avons dit, le Sénégal, nous Djili, nous l'avons dit, en Espagne, Poupa Mouledega, en masse. Et puis aussi à tonton Ibumbaye qui est à la Mecque, donc depuis Jidda, t'écoute. Donc, n'y a pas de l'église.
Matar.
Matar, le Canada. Eh oui, et puis Matar. T'as dit, comme j'ai dit, malheureusement.
Il y a un carton jaune pour le moment.
Non, mais tu as raison. Je vais parler de Samakao. Parce que t'as dit, je vais le Matar. Parce que j'ai changé de téléphone et malheureusement, le téléphone n'est pas adapté. Mais t'inquiète, on va lui chercher une solution pour Bérédion.
Bon. Ben à part ça, ben ñi ngi rafetlu invitation bi nga invité docteur Martin Carvalho.
Mm-hmm.
Parce que depuis le temps, on sait que il est là pour la communauté.
Tout à fait.
Ku bëgg ligéyam di def vraiment lo xamné bu ñëpp jappone né mom dina rafet ci suñu dar je dirais hein, ci suñu communauté ak ci lépp lu ñu farlu.
Mm-hmm.
Bon, après bon, ñi non dal ñi koy remercier parce que limi def vraiment lu am solo la. Bon, de notre côté Lamine, damay wax olof tay parce que dama bëgg nit ñi comprendre limay wax, dégg aussi limay wax. Parce que it dañu yagg wax li nga xamné moy am jamm ci suñu dëkk bi. Mais am jamm suñu dëkk bi Lamine dañ ko wara lal ci dëgg ak rafetal. Waaw, lo bëgg def té lalo ci dëgg rek day lindal koone duma la top rek fenen jëm dafa
sori tout à fait.
Bon, buñu wéssé lolu lu bëri xewna fi ñëpp diko ñaawlu kenn rafetlu wuko. Bon, ñu def nak né dañu wax ci radio bi à plusieurs reprises Lamine né dañu woté mbolo bo xamné dañuy def liñu wax médiation pour ñëpp xam li xew, ñu xol fan la dëgg bi nekk, ñu dox ko def ko. Bé biñu woté lolu, woté nañu boycott, woté nañu sabotage, lu nekk woté nañ ko.
Préciser goulo, mais je crois que tu parles de la mosquée. Hein?
Non, xam nga boné mosquée da fay indi yenen tension.
Wa mais il faut que des gens comprennent parce que ñi dégglu ñëpp dina nan mais ki lu muy wax motax ma ñëw ci tout de suite.
Xam nga bima yagge wax yépp effectivement pour jamm am ci mosquée bi la. Lima wa yag wax yépp pour jamm am ci ville Marseille la. Pour jamm am ci communauté bi, pour jamm am ci nit ñi mëna demalante yombalante gisante bi am de.
Tout à fait.
Parce que ku covid bi yéwul aussi aduna warna la yar.
Waaw,
donc buñu tolo fofu yépp ba def médiation fu nek duggu nañ fa nak parce que détail bi da fay bari fu nek duggu nañ fa ba dimanche dernier. Ñu né exclure ñu ci kenn am yakane ñepp dégg nañ ko ñepp war nañu mëna ñoo tok ñu waxtaan luñu yëgul ñu yëgal ñuko luñu xamul ñu xamal ñuko. Mais comme toujours, j'ai pas envie de citer mais ku ñu wax Mbaye Diop qui le responsable et le secrétaire général, je peux dire en même temps tous ces éléments là ñeu dafa tejj jakk ji xam nga luñu lan tejj fermeture tejj jakk ji manam tejj ko ne ko rap. Jël ñaari vigile xawma ñetti vigile tek len fa ñetti vigile exactement tek len fa. Donc lolu xam nga lolu moy xambatal lolu moy yé fitna bañ fa ñëwé man comme j'étais toujours dit la même, je suis visionnaire sur certaines choses. Bima yégué ni amna né c'est à 16h yalla def 15h ma ñëw taxaw 15h déjà il y avait 30 voire 37 personnes fa taxaw exactement. Ko ci gis mi ngi mesurer 1m80 di def 90 kilos et plus. Ñu jël ñetti vigile saraxo le tek len fofu
ñetti vigile sénégalais quoi dar...
ay africain. Africain mais ci bir wax la xamni ñi ay saraxo le len. Takal len sécurité len bu kenn dugg ci jakk ji xolal jëf ju ñaaw joju jakk ji dafa teje la wax samedi kenn julul fajar kenn julul tisbar ni takusan ni timis
pour vous empêcher. Lolo, ben d'accord
ni, pour empêcher waxtan wi am pour empêcher ndaje bi am fofu ya ngi deg. Mais lamine am na xam dafa ñaaw gis nga bima ñewé 15h il y avait déjà une tension vive bo xamné yalla rek mëna momay sédé dé suma amul won yenn intelligence wala yenn comment dire façon de rassembler fofu da doon tak. Waaw, amna ay grand yu fa nékkone jaxoso won la dal comme je peux te dire jaxoso won lol ça.
D'accord. Et finalement vous avez tenu donc, votre assemblée ou pas?
On a tenu Lamine, on a tenu, mais dans quelles conditions? Police ñëw na Lamine, police ñëw na, mais police bu ñëw la nit ñi bëggoon moy tak tak doorante lu kenn xam am fofu mais ñafa nekkon c'était des gens responsables ñu bayi sen famille bayi sen dimanche ñew pour xam lu xew pour lepp lèr mais nga indi ay vigile tek trois vigiles tu xamné mujj gi yame plus de 50 personnes yu taxaw qu'est-ce qui se passe bu xam nga buñ la néw ni ñoo bañ pour ñu ubbi jakk ji lool la di jël duwal taxal len duwal ci auto yow bi police ñewé on a eu le calme d'expliquer ils ont bien compris hein. Ils ont dit, mais encore, ça fait la deuxième fois. Mon nek ben femme, mon nek qui première commission. Mais c'est toujours la même personne. Ça, c'est toujours pas réglé. Bon, ils ont compris. En fin de compte, on a pris l'hôtel Ibis à côté. Hein, parce que nous avons immobilisé tous les clients dans les lois Nibilène.
D'accord.
Ah, nous avons dit, tous les clients sont venus. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, qu'on a accès à l'empêchement, ou qu'on a accès à raison. Mais ni ni déplacer ni nous, nous ni qu'un de nous l'aime. C'est des gens responsables, des pères de famille, voilà, des gens dignes qui vivent à Marseille voilà, et environnant, je dirais. Nous ni nous, mais donc nous ni on baigne des flots, nous oublions à côté Ibis. On a payé une salle fofu, hein, un dimanche. Bon, il faut dire la chose telle qu'elle est. Madame de médiation, parce que nous lundi malin, non lundi malin, je veux la salle aujourd'hui. Vraiment, il faut le dire, je me suis imposé.
D'accord.
On a payé cher la salle pour une heure de temps. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. On a fait ce qu'il y avait à faire.
Okay.
Et puis le reste, la justice nous donnera raison ou tort. Voilà.
D'accord. Donc, si je comprends bien, maintenant, la mosquée a deux directions.
Non, pas deux directions. Parce que nous, nous nous manifestons tant que nous.
Ok. Mais en attendant, il y a une qui a été faite de manière parallèle.
Mané, c'est par mesure de grandeur qu'on reste dans l'ombre à attendre les bonnes décisions.
Okay.
Parce que, xolal, lamine, gis nga bou doon xam ba ta rek, hein, dem taxaw ci jakk joju ku wax ñu wax ko kenn daxuñu ko. Mais ñun on n'est pas venu pour ça, dañu ñëw pour jamm. Dañu ñëw pour affaire yi lèr parce que yow tay ji bo tuju won sa nek, nit ñi ñëw feug la lamine, keñ ubbu wo leen pour wax ak ñom. Sa way buñ dajé buntu bi di nga xamné tu leur as donné raison am dess.
Tout à fait. Bon.
Mais là, on n'est pas à cette hauteur. On attendra et que la justice fera son job. Voilà.
Bon.
Donc, nous fitna, li ñu bëgg moy ñoo leen ñu wax. Mais loolu wessu na fi ñeñ ni. Waye bañ koy wax ba légui, médiation yi ci am yépp fu nekk dem lañ fa. Même au sein du consulat, il y a eu des médiations un peu de partout. Lamine. Mais ben nit dong né wo leen Yalla bu leen nexé. Le président de la mosquée ñu koy wax Modou Seck momit top ci li nga xamné xamul limi top lan la
bon.
Mais il y a un problème mais nak lan la am la min gis nga buñ déwé ba ci biir dina am ñu bëri ñu rouss parce que li ñi gis ci li ci biir yépp dafa jaxaso li ñi gis ci biir yépp billahi buñ ko waxé fi aduna tass motax mané le dina am ñu bëri ñu xamné dina ñu rouss waaw
en tout cas
dina ñu rouss nak
uh-huh.
Parce que dañu nekk ci système bo xamné man tay ji bo may gungé té waxuma la dëgg hein buñ dé ba dëgg éclaté hein dina le rouslo ñi nga andal ñëp am dé
merci pour ta communication en tout cas li nga wax dégg nañ ko maintenant je laisse à tout un chacun donc de se faire son idée et puis comme je l'ai toujours dit toutes les personnes que tu as citées que vous continuez toujours de citer ont toujours aussi le plein pouvoir de m'appeler pour réagir ou de venir sur le plateau. Voilà. Fi mom ku bëgg wax rek na nga ñëw wax.
Et ils l'ont jamais fait encore.
Depuis
combien de temps? Combien de temps on a fait des appels? Comme ils disent, le chien aboie, la caravane passe. Voilà.
Merci pour la communication.
Amin. Moi, tout le monde qui est en train de se faire, il y a le digital qui est en train de se faire. Il y a le lieu pour l'air. Continuer jam suñu borom bi ak jam ak salam
amin
parce que objectif bi ben rek la don ben
merci wow. merci beaucoup Bira Tune depuis Aix-en-Provence merci grand. Voilà donc Richard sans transition le docteur Martin Carvalho est sur le plateau voilà comme je te l'ai dit au départ. Quand je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu. J'ai dit, oh putain, Richard, putain, excusez-moi, mais bon, vous avez tout compris. Hein. J'ai dit, oh Richard, c'est un médecin. Donc certainement, il a dû être appelé et ça a été le cas. En tout cas, nous sommes très heureux donc, qu'il puisse courir pour venir à la radio. Et comme je vous ai dit, c'est votre émission. profitez-en. 04 91 028 10. Pas de carte vitale, pas d'aide médicale d'État, rien. C'est gratuit. Vous appelez pour poser des questions sur le diabète. Voilà. Et puis, comme je dis, on entre dans cette période de Ramadan. Et donc, du coup, voilà, comme il le fait chaque année, nous discutons avec le docteur Martin Carvalho. En deux mots, le docteur Martin Carvalho, il est le spécialiste du diabète ici. En tout cas, un spécialiste du diabète dont on est fier parce qu'il est d'origine sénégalaise. Il est l'ancien chef de service du service endocrinologie de l'hôpital européen de Marseille. Le docteur Martin Carvalho est également Richard, le premier Sénégalais élu à la métropole d'Aix-Marseille, dont il est le vice-président chargé de la relation aux citoyens, à la santé, à la biodiversité et à l'environnement de la dite institution. Le docteur Richard aussi, hein, il est en tout cas à la tête de l'association Diaspora Santé Sénégal. Hein, si tu le sais, chaque année on fait des choses. Et Diaspora Santé Sénégal, d'ailleurs, a débloqué 15 000 euros pour participer à la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Et puis aussi, on fait, en tout cas, je dis on parce que je fais partie de l'association, mais son association, en tout cas, envoie aussi du matériel dans des hôpitaux, etc., etc. Voilà, d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a un centre de diabète qui a été mis en place à Thiès et c'est aussi l'œuvre du docteur Martin Carvalho avec ses partenaires, en tout cas occidentaux. Donc, docteur, donc très rapidement, parce que le temps ici, ça file très, très, très vite, mais bah, il est déjà... que tu puisses dire bonjour à tous nos auditeurs.
Merci Lamine, merci Richard de cette invite annuelle. Bonjour à tous les auditeurs d'ici et d'ailleurs. J'en profite aussi pour faire un clin d'œil à mon ami Bira qui vient de s'exprimer. Je suis dans la même longueur d'onde que lui, que la paix règne dans cette affaire et donc que les choses puissent... voilà, s'aplanir et que tout le monde puisse se retrouver sereinement le chemin de la paix dans cette religion de l'islam qui prône essentiellement la paix. Voilà.
Bon. En tout cas, merci docteur. Et très rapidement, j'ai parlé de beaucoup de mots, endocrinologie, diabétologue, vous êtes aussi nutritionniste, de manière très simple. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, c'est quoi votre travail?
Alors, la spécialité s'appelle endocrinologie et maladies métaboliques. Alors, c'est ça le titre de la spécialité. Alors, endocrinologie, c'est sûr que c'est compliqué déjà à prononcer comme mot, comme terme. En fait, c'est l'étude des hormones, l'endocrinologie. Et donc, l'homme a beaucoup d'hormones qu'on ignore quelquefois. Et parmi toutes ces hormones-là, bon, je ne vais pas les citer, il y en a plein. La pathologie, en fait, on va dire, la maladie qui est la plus courante, la plus connue, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de monde qui, sur la planète qui est atteint de cette maladie-là, c'est le diabète. Donc, le diabète, bien entendu, c'est une affection qui est liée à un problème au niveau du pancréas. Et le pancréas, bien entendu, est là pour, chez l'être humain, pour diminuer le taux de sucre dans le sang à cause d'une, enfin, grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline pour pouvoir, qui a son seul travail, l'insuline. En dehors, il a d'autres travails, mais son travail essentiel, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais il y a d'autres pathologies hein, qui existent. Hein. Il y a des pathologies aussi connues qui sont un peu plus fréquentes, moins fréquentes que le diabète, mais qui existent. C'est des problèmes de thyroïde. Donc des gens ont des problèmes de thyroïde, soit une hyperthyroïdie, ça parce que ça marche trop, ou bien une hypothyroïdie parce que ça ne marche pas assez, ou bien des cancers de la thyroïde. Il y a d'autres organes aussi qui peuvent être atteints, c'est-à-dire les surrénales. C'est des surrénales, ce sont des glandes. On les appelle surrénales parce qu'elles sont tout simplement au-dessus du rein. Donc c'est pour ça qu'on parle de surrénales. On en a deux, une à droite, une à gauche, bien entendu. Et ce sont des glandes qui aussi ont un rôle dans l'organisme. Après, ces glandes-là sécrètent beaucoup d'hormones. Hein. D'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a aussi les glandes, on va dire, ovariennes chez les femmes et testiculaires chez les hommes. Donc, voilà quelques glandes. Et bien entendu, la glande, on va dire, le chef d'orchestre de toutes ces glandes-là, c'est l'hypophyse. Et c'est elle qui fait sécréter aussi ces hormones qui vont donner des ordres par exemple, à la thyroïde pour lui dire qu'il faut fabriquer des hormones thyroïdiennes, qui vont donner des ordres, par exemple, aux ovaires pour leur dire bah, il faut fabriquer des œstrogènes et de la progestérone. Vous voyez ? Donc, y a, ça touche effectivement tous les organes. Hein, et au-dessus de, là, de ça, vous avez effectivement l'hypothalamus qui est, si vous voulez, il y a un axe, si vous voulez, ça part de l'hypothalamus, l'hypophyse, et après les glandes cibles, ce sont les organes. Et ces organes-là, bien entendu, fabriquent des hormones. Voilà. D'accord. Donc, pour vous faire simple, mais ça touche finalement, ça touche tout l'être humain. Parce que ces hormones-là, dès qu'elles sont fabriquées, elles vont aller, si je prends par exemple la thyroïde, donc vous avez une, allez, au lieu de l'hypothalamus, une hormone qui s'appelle TRH, donc thyroid releasing hormone, qui va demander à l'hypophyse de sécréter, de fabriquer la TSH, qui appelle la thyroid stimulating hormone. Et cette thyroid stimulating hormone va aller stimuler, comme son nom l'indique, va aller stimuler la thyroïde. Et quand elle stimule la thyroïde fabrique des hormones. Et quand les hormones sont fabriquées et relarguées dans le sang, ces hormones maintenant vont aller, par exemple pour la thyroïde, ça peut atteindre les yeux, ça peut atteindre le cœur, ça peut atteindre les cheveux, ça peut atteindre le tube digestif, ça peut atteindre la peau, donc ça peut atteindre les ongles. Donc ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, bah, nous, quand les gens viennent nous voir, on les écoute nous parler. Et après, bien entendu, on a toujours besoin d'un bilan sanguin ou d'une imagerie. Et à partir de ce moment-là, on commence à dire, bon, écoutez, voilà, on a retrouvé ça à l'imagerie. Mais l'imagerie, comme pour dire que je dis souvent aux patients, c'est une photographie, d'accord ? Et ce qui nous permet de dire si ça fonctionne ou pas, c'est le bilan sanguin, d'accord ? C'est la prise de sang. C'est comme si vous avez un drone et le drone photographie, par exemple, l'immeuble qui est ici de la friche de la Belle de Mai. On dit, ah tiens, il y a des étages, il y a un terrain de basket, il y a un truc. Mais ils ne pourront pas dire, est-ce que le studio à Radio Galère fonctionne ? D'accord. Le studio à Radio Galère, pour ça qu'on sache qu'il fonctionne, ce n'est pas le drone qui va le dire. C'est, on va venir faire une inspection dans le studio de Radio Galère, on va dire, tiens, les micros fonctionnent. Et ça, c'est la prise de sang qui le dit.
D'accord. Voilà, voilà, donc merci docteur pour cette explication très très simple, hein, Richard. Hein. Voilà, simple et compliqué à la fois. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous avez un médecin sur le plateau, spécialiste de diabète. Donc vraiment, moi j'ai des questions, hein, mais si vous ne posez pas des questions, c'est moi qui pose des questions. Et j'aimerais que vous puissiez poser des questions, parce que c'est peut-être des questions qui vous touchent directement ou qui touchent votre entourage. Donc n'hésitez pas à nous appeler à tout moment, 04 91 08 28 10. Docteur, l'objet justement de cette invitation, en attendant que nos auditeurs nous appellent, c'est peut-on faire le diabète ? Peut-on faire le diabète ? Peut-on faire le ramadan si on a le diabète ?
Alors, c'est une très bonne question et qui fait débat même dans les sociétés scientifiques internationales. Il faut savoir que, je l'ai toujours dit ici, on a deux types de diabète. Pour faire simple, hein, le diabète, je ne vais pas revenir là-dessus. Le diabète de type 1, c'est-à-dire les diabétiques qui sont essentiellement sous insuline parce que leur pancréas ne marche pas très bien, donc le pancréas ne peut pas fabriquer de l'insuline. Donc ces gens-là, on leur donne de l'insuline. Et quand on leur donne de l'insuline, bah, ces gens-là, on disait, d'accord, après il y a eu un peu, on a mis un peu de l'eau dans notre vin, ces gens-là, il ne faudrait surtout pas qu'ils fassent le ramadan. Et je reviendrai en disant pourquoi. Et vous avez les diabétiques de type 2, c'est-à-dire que eux, ce sont les diabétiques dont le pancréas marche encore, donc ils n'ont pas besoin d'avoir d'insuline, on leur donne des comprimés. Et on disait, ces gens-là, bon, finalement, si on fait attention à certains médicaments, ils peuvent faire le diabète. Ils peuvent faire le ramadan, pardon. En fait, la problématique, il est où ? À mon humble avis, il faut être pragmatique, il faut être simple. Moi, je pense que la science, je dis toujours, la science n'est pas une science exacte. La science n'est pas exacte, d'accord ? On s'adapte à l'individu qui est en face de nous. Quelqu'un, pour qu'il puisse faire le ramadan, à mon humble avis, doit quand même respecter les préceptes du Coran. Je pense qu'il faut partir de là, d'accord ? Le Coran dit très bien que les enfants prépubères, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui voyagent, qui peuvent rattraper, les personnes essentiellement qui sont malades, ne doivent pas faire le ramadan. Ça, ça a été clair, c'est le Coran qui l'écrit. Maintenant, quand vous demandez à... Quand un musulman va voir l'imam pour lui dire essentiellement... dois-je faire le ramadan ? L'imam dit, qu'est-ce que ton médecin a dit? Et donc, nous, on regarde notre patient qui est en face de nous, qui nous pose cette question-là, et on regarde son bilan sanguin, on regarde ses antécédents, d'accord? Et à partir de ce moment-là, on lui donne une orientation en lui disant, voilà, vous, vous pouvez peut-être faire, vous, vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est sur des bases scientifiques. Ce n'est pas parce que Lamine, il est gentil avec moi, je lui dis, il va faire. Richard n'est pas gentil avec moi, je lui dis, Richard, tu ne vas pas faire.
D'accord.
Ça ne se passe pas comme ça.
Donc, c'est basé vraiment sur des aspects scientifiques.
Tout à fait.
Voilà. Juste, Balanyuchi Delsi, nous avons deux auditeurs donc, qui veulent poser des questions et ils sont les rois. Donc, Richard, on part avec le premier. Allô?
Salam alaikum.
Malaikum salam.
Alaykoum salam.
Seigne Medoun Diène, notre chroniqueur depuis Toulon.
Oui, oui.
Docteur Martin Carvalho.
Non, pas docteur, docteur Lay Moudié.
Richard.
Richard, voilà.
Oui, bonjour.
Richard, voilà. En tout cas, docteur, je vais vous donner un nuyo spécial parce que, quand même, nous savons que je ne sais pas si je suis un homme, mais j'ai un profond respect pour lui par rapport à tout ce qu'il a bas et entre autres, il y a aussi par rapport à votre association et lui, de par sa représentativité et de par toutes les actions qu'il mène. Quoi. Donc, moi, comme il n'est pas aisé de l'avoir chaque jour parce qu'il y a une casquette politique, mais tu as dit au-delà de effectivement Ramadan, je me suis beaucoup de like. Docteur, la population sénégalaise, xam nga Sénégal nu mel, xam nga le plateau médical défectueux bi nga xamné mom lañu am, xam nga né ñun suñu ay priorité moy tabax ay stade 153 milliards, tabax ay arena 8 milliards, 32 milliards, tabax ay infrastructure, alors que pendant ce temps so démé suñu hôpital yi perfusion sax amu fa et nga xam diabète limuy yak ci suñu dëkk. Diabète limi ray ci Sénégal diabète limi indi ci ay désagréments ci famille mi tass man sama yaay diabète moko yobbu ma yalla nako yalla xalé aljana yalla nako soustende ak kum fa fek sama papa il est amputé par rapport à diabète alors que au départ dañ néwon portail bi la mu jigi gaay dem ba ci genou bi il le vit très bien parce que il a un mental extraordinaire et que pour mom c'est une source de suivi. Tay ji docteur su fekkone dama ne la ban plan d'action nga am pour Sénégal nan nga meuna def ba nga xamne xam nga fi so amé diabète à 100% doko fayati garab yi doko fayati le matériel doko fay mais deuk bu melni comme Sénégal naka lañu meuna def docteur pour que diabète wax deuk fa deuk yalla ñu am de véritable plan d'action am ben coup système bo xamne dinañu meuna jall ak mom xex ak mom té xaliss totul doon obstacle. Voilà, man c'est en fait suñu mënon jox ci yobante bobu au-delà de diabète ak cor, je vous en remercie et je vous dis bonne continuation et que Dieu saura récompenser les justes et je pense que tu es quelqu'un de juste à travers ta communauté, à travers le boulot que tu fais. Merci Jerejef.
Merci Medoun, merci. Voilà docteur, juste avant la réponse à Medoun, on prend le deuxième auditeur ou la deuxième auditrice. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour madame.
La mine, c'est Koulou Aïdar.
Oui, Koulou, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va bien, tranquille.
Aujourd'hui, je tenais à participer à l'émission parce que c'est une très très bonne émission comme d'habitude. Mais là, comme on rentre dans un mois béni, on a des questions et c'est des sujets qui nous concernent tous parce que nous avons tous des malades de diabète, nos familles, dans nos familles. Alors du coup, je voulais poser une question au docteur Martin Carvalho.
Allez-y, il vous écoute.
Voilà, tout d'abord, merci docteur d'accepter de partager votre savoir. Merci de faire le plus beau métier du monde. Moi, ma question concerne, je me demande, parce que moi j'ai une tante personnellement qui a le diabète et qui veut toujours insister le fait de faire le ramadan. Moi, je voulais savoir quels sont les risques auxquels s'exposent les patients diabétiques souhaitant respecter le ramadan.
Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Comme il y a d'autres questions, il va répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup.
D'accord, merci, au revoir.
Au revoir. Voilà, docteur, donc vous avez deux questions, hein, donc
alors,
je vous laisse.
Je vais commencer par la question de ma copine Koulou. C'est pas pour dire que la question de Medoun n'est pas intéressante. Au contraire, elle est tellement intéressante que j'y répondrai à la fin avec beaucoup plus de détails. Koulou, merci pour ton intervention. Donc, en plus, c'est une femme, donc honneur aux dames. En fait, Koulou, pour ta tante, je pense que elle se met elle-même en danger et elle ne respecte pas les préceptes de l'islam. Parce que l'islam dit tout simplement dans la sourate 2, le verset 183, pardon, si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur ou lorsque la personne est malade, l'islam l'exempte du jeûne. Donc si vraiment elle est une bonne musulmane, elle devrait respecter cela. Donc elle se met en danger tout en sachant qu'elle est malade. Donc ça pose un problème. Si je pars sur la sourate 2, le verset 185, on nous dit que Allah cherche à vous faciliter l'accomplissement de la règle. Il ne cherche pas à vous la rendre difficile. Donc ça veut dire que finalement, est-ce que la relation que nous avons avec tout simplement notre Seigneur Dieu, c'est de dire, je suis le meilleur prieur, je fais mes 5 prières, je suis celui qui fait le meilleur jeûne sur la planète. C'est pas ça, je pense. Je pense que dans même le principe même du Ramadan, en dehors de l'aspect abstinence et jeûne, on nous dit aussi que même quand tu ne peux pas jeûner, tu devrais, d'accord, quand tu as les moyens, si tu as les moyens, faire l'aumône à quelqu'un qui est dans le besoin, ce qu'on appelle la sadaka. D'accord ? Et même si cette sadaka ne peut pas être faite, tu pourrais inviter encore ton voisin qui n'a pas les moyens de faire la rupture de jeûne et de l'inviter avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire comme image ? Qu'est-ce que ça veut dire comme représentation ? Ça veut dire que finalement, moi, Dieu, vous ne me voyez pas. Je vous dis ce qu'il y a lieu de faire. Mais commence par peut-être aider ton prochain. Et dans tous les livres saints, il te pose la question, qu'as-tu fait de ton prochain ? Chez nous, les chrétiens, la première fois où effectivement il parle de son prochain, c'est quand Caïn tue son frère Abel. Il pose la question à Caïn, qu'as-tu fait d'Abel ? Caïn lui répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. Ça veut dire que tu veux dire que tu m'aimes, mais tu ne t'occupes même pas de ton prochain que toi tu vois. Et moi, tu ne me vois pas tu dis que tu m'aimes. À un moment donné, il y a un problème. Et à chaque contour, il te dit, qu'as-tu fait de ton prochain ? Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est de pouvoir aider, de pouvoir être en bonne relation avec la personne qui est devant nous, d'accord, en face de nous, plutôt que d'essayer de dire, ah ben, je crois en Dieu, mais en attendant, le prochain qui est à côté de moi, j'en fais tout ce que je veux et n'importe quoi. Je pense que là-dessus, le bon Dieu, je ne l'ai jamais vu encore, hein, mais je pense que ce qu'il retient, c'est essentiellement le cœur, ce que nous faisons vis-à-vis de celui que nous voyons. Et chez nous, les chrétiens, on dit que ton prochain, en fin de compte, c'est comme ça pourrait être Dieu qui est devant toi et que tu ne le sais pas. Donc, occupe-toi de ton prochain. Donc, moi, je pense que pour ta tante, je reviendrai sur les complications. Le problème, c'est que les jeûnes, quand on est en période de jeûne, nous, on est en période de carême, aussi, il y a des gens qui, en période de carême, ne boivent pas et ne mangent pas durant toute la journée et le soir font la rupture de jeûne. Quand on est en période de jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas. L'organisme, nos cellules ont besoin d'eau et ont besoin d'énergie par l'aliment. Alors, tu t'imagines un patient diabétique qui, depuis le matin, 4 heures du matin, ne boit pas, ne mange pas, jusqu'au soir. Qu'est-ce qui se passe dans son sang, finalement ? Vous savez que le sang, c'est de l'eau et des globules rouges. Donc, quand il y a moins d'eau, le sang veut dire il est moins fluide. D'accord ? Le torrent sanguin coule moins bien. Et donc, on va être en phénomène, on va créer de la déshydratation. D'accord ? Parce que le fait qu'on n'ait pas assez d'eau, surtout le plus souvent, ça arrive en période de chaleur. Bon, là encore, ça va. Mais quand c'est l'été, c'est quand même très compliqué. Et qui plus est, ce torrent circulatoire qui ne coule pas très très bien va entraîner un ralentissement et exposer les gens à créer ce qu'on appelle des micro-caillots, ce qu'on appelle des micro-thrombus, et qui vont aller se localiser un peu partout dans les artères. Parce que le sang coule que dans nos artères.
Et ça peut créer des AVC.
Et ça peut créer, donc, à ce moment-là, toutes les complications. Donc, si c'est au niveau cérébral, bah, quand ça se bouche au niveau cérébral, c'est comme vient de dire Lamine, AVC. Si ça bouche au niveau des yeux, ça peut créer donc des problèmes au niveau oculaire. Si ça bouche au niveau du cœur, ça fait de l'infarctus. Si ça bouche au niveau des reins, ça fait essentiellement des problèmes au niveau rénal. Et donc, la personne va être en insuffisance rénale. Déjà, quand tu es déshydraté, ben, y a l'insuffisance rénale fonctionnelle qui se fait. C'est-à-dire que le rein ne peut plus fonctionner correctement parce que le rein, pour fonctionner, a besoin d'eau. Tu le prives d'eau pendant 18 heures. D'accord ? Donc, tu comprends bien que la personne est déjà exposée à ces complications. Et donc, voilà ce qui explique la raison pour laquelle on propose aux patients diabétiques, pas tous heureusement, d'éviter de faire le ramadan. D'accord ? Parce que le patient diabétique, déjà, lui, il est fait de miel. Je leur dis toujours, vous êtes fait de miel parce que vous avez du sucre. Donc déjà, votre sang, déjà à l'état basal, votre sang coule moins vite que le sang de quelqu'un qui n'a pas de diabète. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de diabète, c'est du sang normal. Le diabétique, c'est du sang avec du miel à l'intérieur. Vous comprenez bien que quand vous faites le mélange, le sang normal va couler beaucoup plus vite que le sang qui contient du miel. Parce que la viscosité n'est pas la même. C'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, imaginez-vous que ce sang qui ne coule pas très bien, dans tout l'organisme, à un moment donné, ça va boucher. Et donc, surtout que quand le patient ne mange pas et ne boit pas, comme il est en état de déshydratation, le taux de sucre risque d'augmenter. Tout simplement. Même s'il ne mange pas. Parce que lui, il a déjà du miel. Imaginez-vous un tuyau où il y a du miel à l'intérieur, d'accord ? Et le taux de sucre vient augmenter, mais le tuyau, à un moment donné, ça risque de se boucher. Tout simplement. Maintenant, heureusement que du fait que ces patients-là ont un traitement pour équilibrer leur diabète, ils peuvent, bien entendu, pour ceux à qui on autorise de faire le ramadan, ils peuvent essentiellement prendre leur comprimé le matin à la période donc du khud qu'on appelle al-sour, d'accord ? Et bien entendu, à la période de rupture du jeûne qu'on appelle al-iftar, d'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent essentiellement prendre leur traitement à ce moment-là. Mais d'accord ? Mais je leur conseillerais de beaucoup, 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 beaucoup boire le matin pour avoir un taux d'hydratation assez correct qui leur permettra de tenir et de ne pas mettre en danger leurs cellules qui sont là pour essentiellement faire leur travail correctement du corps humain. Chez les patients diabétiques avec de l'insuline, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir vraiment jouer vraiment avec beaucoup d'astuces. Mais c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs, quand vous avez un taux de diabète qui est trop bas, inférieur à 0,7, ou bien quand vous avez un taux de diabète qui est supérieur à 2,50, quel que soit le type de diabète, que vous prenez des comprimés ou que vous prenez de l'insuline, les médecins disent arrêtez votre jeûne, d'accord, parce que vous risquez de mettre votre vie en danger. Et à ce moment-là, ça nous ramène essentiellement à la sourate 285, où on dit qu'on vous met pas, l'islam ne vous exempte de faire le jeûne.
Docteur, juste avant de venir sur la question donc de Medoun, il y a un auditeur qui attend depuis longtemps, on va à l'antenne. Allô ? Allô ? L'auditeur n'est plus là, Richard, on dirait. Bon, ok, donc je vous laisse enchaîner. Mais juste avant la réponse à Medoun, mais docteur, je vous entends dire, chez nous les chrétiens, il vous entend parler de sourate, enfin, je sais pas, vous êtes chrétien musulman ou musulmano-chrétien, enfin, je comprends
Lamine,
pas.
Lamine, je suis né dans un pays qu'on appelle le Sénégal, où il y a à peu près, bon, 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Mon meilleur ami est musulman. La première fois que j'ai eu à jeûner, à faire le ramadan, on était à la fac de médecine. Tout simplement, on était dans la même chambre avec mon ami, qui est aujourd'hui le professeur Amadou Gallou Diop, éminent professeur de neurologie. Comment voulez-vous qu'on partage la même chambre, qu'on travaille ensemble, qu'on révise ensemble, et que lui fasse le jeûne et que moi j'aille manger? Je me suis dit non. S'il est capable de faire le jeûne, moi aussi je fais le jeûne avec lui. Et quand le moment de la rupture du jeûne venait, soit on allait chez lui parce qu'il habitait pas loin à la zone B, ou bien on allait chez moi à la Liberté 1 et on faisait la rupture du jeûne.
Tout à fait.
Donc j'ai commencé à jeûner comme ça et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, durant même le carême chrétien, il m'arrive de jeûner tout simplement, durant toute la journée. Bon. Sans pour autant que ça me pose un problème. Parce que le jeûne aussi, c'est assez important aussi et très, c'est fondamental pour la santé. Hein. Donc ça, il faut le savoir aussi.
En tout cas, comme tu l'as dit, c'est ça le Sénégal. Et j'en profite pour nouer mon un de mes meilleurs amis d'enfance, Medoun Jean-Pierre Seck, qui est aussi un chrétien.
C'est mon cousin.
Voilà, c'est ton cousin en plus. Et chaque fois, c'est lui qui nous disait, « Boy, Rujuli Jordan, Rujuli Jihara. » Donc on avait honte, « Rujuli. » Voilà. Richard, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. C'est Abdoulaye Diom.
Abdou, ah, grand Diom, ça va, Nakam?
Oui, c'est très bien.
Ça va, nous l'avons déglo.
Bonjour, docteur, et à tout le monde. Voilà, je voulais juste poser une question au docteur. Est-ce qu'il y a un rapport entre le diabète et l'apnée du sommeil?
Diabète et apnée du soleil, du sommeil.
Tout à fait.
Du sommeil, voilà.
Ok, donc c'était la seule question. Hein?
Voilà, pour moi, c'est ma question.
Allez, grand, en tout cas, merci beaucoup.
Allez, merci.
Merci. Voilà, donc docteur, je vous laisse quand même répondre à Medoun. Medoun
oui,
Diène.
Oui, on va répondre à Medoun. Parce que,
qui parlait Djoum, des plans d'action.
Tout à fait. Djoum, je lui répondrai. Parce que, bien entendu, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça,
ouais,
ça,
mais
ça
après,
a un impact,
oui, oui.
Ça a un impact très important
ouais.
Sur le diabète et apnée du sommeil. Mon ami Medoun, en tout cas, merci parce que même si on ne s'est jamais vu, moi aussi, j'écoute souvent tes interventions qui sont vraiment. Très clair et très limpide et très impactante. Donc, à chaque fois que Lamine fait ses émissions, même si je ne suis pas présent, mais j'écoute quand même après. Donc, merci pour tout ce que tu fais aussi pour le Sénégal. Le plan d'action, en fait, Medoun, là, c'est peut-être la fibre politique qui va prendre un peu le dessus. Mais en même temps, le citoyen qui est un peu mécontent. Alors, je n'ai pas le monopole de la vérité, mais du moment où effectivement je me suis rendu compte que j'avais plus ou moins trahi le Sénégal, à savoir je suis venu faire une formation et je suis resté, je me suis dit il va falloir que tu essaies de faire quelque chose pour ton pays. D'accord, je ne reviens pas sur la phrase de Kennedy que tout le monde m'entend dire à chaque fois à longueur de journée. Et donc je me suis dit il va falloir que tu fasses quelque chose pour ton pays. Et je me suis posé la question, que faire ? Avec qui faire? Je me suis dit, si je dois le faire avec les autorités sénégalaises, ça prendra du temps. On connaît bien le comment du pourquoi. Donc, je vais y aller dans un premier temps seul, en interpellant tout simplement les industries pharmaceutiques européennes, occidentales, et pour ne pas dire la France. Pourquoi? Et au cours d'un congrès international, je me suis levé en disant, d'accord, de façon très claire, parce qu'on faisait, on parlait du diabète en Afrique, et qu'il y avait beaucoup d'amputations, qu'il y avait beaucoup de cécité, qu'il y avait beaucoup d'insuffisance rénale chronique, et que finalement, ces gens-là, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, et comment ils vont faire avec le diabète? Donc, je les ai laissés discourir là-dessus. Je me suis levé, et je leur ai dit maintenant, je vais vous prendre au mot. Vous dites parler de l'Afrique, mais qu'est-ce que vous faites au fond pour l'Afrique? Moi, j'ai un plan. Pour mon pays, pour aider effectivement les patients sénégalais, je pense qu'il va falloir que l'on forme des médecins sénégalais à la prise en charge du diabète, parce qu'il n'y avait pas de spécialistes dans ce domaine-là. Moi, j'étais là, à être le premier à être formé. Et comme je dis, j'ai trahi parce que j'aurais dû rentrer, d'accord, pour peut-être le faire. Mais aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus utile ici que si j'étais rentré. Et donc, à la fin de mon intervention, le congrès, cette session-là se terminait. Certains laboratoires sont venus me voir en me disant, Martin, tu as raison, effectivement. Je dis, non seulement il faut former, mais après, il va falloir, après les avoir formés, créer des centres de prise en charge du diabète au Sénégal, parce qu'il n'y en avait qu'un, bien avant qu'on ne naisse, nous tous, d'accord, pratiquement, c'était le centre à Basse-Nord. Et donc, j'ai dit que ce n'était pas possible que tout se résume à la capitale, à Dakar, parce que, je donne toujours cet exemple, le patient diabétique qui coûte Tambacounda pour venir à Dakar, mais c'est compliqué pour lui. Et donc, je me suis dit, il va falloir décentraliser. Et c'est comme ça que j'ai été à Thiès, à l'hôpital
Saint-Jean-de-Dieu,
que je ne connaissais pas. Hein. C'est une copine, une sœur à moi, qui est le docteur Aoumbo Kan, qui est aussi endocrinologue, qui m'a dit, il y a un jeune qui s'appelle Jean-Michel Dion qui est à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu qui aime le diabète et qui vraiment devrait être soutenu. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, je vais lui rendre visite. Et Dieu a fait que quand je suis arrivé dans cet hôpital-là, le docteur Jean-Baptiste Dion, qui était mon aîné à la faculté de médecine, qui était chirurgien, était le directeur. Donc, c'est comme si le bon Dieu avait facilité les choses. Je n'ai pas pu voir le docteur Jean-Michel Dion parce qu'il était parti dans un séminaire, je ne sais pas, en Afrique du Sud ou autre, sur le diabète. Et donc, à son retour, il m'a appelé et on a pris langue. Et finalement, je l'ai fait venir à Marseille. On a payé sa formation au DU de Montpellier, d'accord, de diabétologie de Montpellier, parce qu'il n'a pas à Marseille, malheureusement, jusqu'à ce jour. Et il a été formé chez le professeur Louis Monnier. Et aujourd'hui, c'est le professeur Éric Renard qui est un ami, qui accueille les étudiants sénégalais pour cela. Et donc, à l'issue de sa formation, on a créé le premier centre, tout simplement, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, de Thiès, d'accord. Et qui plus est, le président du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu était bien entendu quelqu'un que je connaissais. Et l'évêque de Thiès, c'est lui qui m'avait marié. À l'époque, il était évêque. Il venait juste d'être nommé évêque. C'était l'évêque Monseigneur Jacques Sarr. Et donc, ça m'a facilité les choses et on a pu créer ce premier centre-là grâce à 3 laboratoires pharmaceutiques français qui ont pu effectivement m'aider, c'est eux qui ont financé, hein, moi je n'avais pas l'argent, à hauteur de 150 000 euros, on a pu créer ce centre-là. Aujourd'hui, ce centre, d'accord, sert de modèle économique et produit entre 150 000 à 170 000 euros, d'accord, de rentrée d'argent par an. Alors que, quand on a visité, avant d'implanter ce centre-là, c'était un terrain vague, tout simplement, dans l'hôpital, où les voitures garées, où les gens déambulaient. Et quand j'ai fait la proposition au directeur de l'époque, Jean-Baptiste Dion, il m'a dit, tu crois qu'on va y arriver ? Je lui ai dit, on va y arriver. À cette époque-là, il n'y avait que ce médecin-là qui s'occupait, qui s'intéressait au diabète. Aujourd'hui, il y a 3 médecins qui sont diabétologues, c'est-à-dire qui sont venus se former à Montpellier. Le Sénégal n'a pas mis un franc CFA dedans. Il y a 2 cardiologues, dont un qui est maintenant professeur, qui exerce dedans, d'accord ? Il y avait une infirmière qui est devenue aujourd'hui la surveillante. Il y a 8 infirmières qui ont été embauchées et il y a 2 aides-soignantes qui y travaillent. Donc d'une personne, avec un centre, on a créé de l'emploi, d'accord ? Et le service-là, aujourd'hui, c'est celui-là qui fait le plus de recettes dans l'hôpital. Et donc, je me suis dit, si ça marche là, l'objectif, c'est de le pouvoir décentraliser comme ça. On parle de politique de décentralisation. Voilà un exemple qui est simple à faire. Et donc, on voulait faire Thiès pour faire l'axe Dakar-Thiès-Saint-Louis. On voulait faire Saint-Louis, pardon, pour faire l'axe Dakar-Nord, l'axe Dakar-Thiès-Saint-Louis. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et normalement, j'ai été en décembre à Ziguinchor et rencontré l'hôpital régional de Ziguinchor, que je ne connais pas non plus, hein. Et finalement, en 2022, Inch'Allah, on devra ériger aussi encore un autre centre de prise en charge du diabète. Donc, c'est une question de volonté politique. Et comme tu l'as si bien dit, plutôt que de dépenser des 500 et quelques milliards de francs CFA, mais à y réfléchir, c'est presque 1 milliard d'euros. C'est presque 1 milliard d'euros, le stade. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de stade. On a toujours eu besoin de stade. Moi, j'habite devant le stade de Mbeu Diop. Quand j'étais gamin, j'y allais jouer. Quand j'ai grandi, j'ai joué au basket au stadium Marius Ndiaye. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il est très important de savoir mettre le curseur. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il y a 2 choses qui vont nous aider à nous développer, c'est l'éducation et la santé. Ils pourront effectivement voler de leurs propres ailes, créer, être des entrepreneurs. Mais pour être un bon entrepreneur, d'accord, en dehors de l'éducation et de la technicité que tu auras reçue, tu as besoin d'une bonne santé pour pouvoir diriger ton entreprise.
Merci, médecin, docteur, pour ce plan d'action. Bon, l'heure, ça file très vite. Donc, docteur, il nous reste 25 minutes. Donc, si tu peux essayer de ne pas faire des réponses politique, mais des réponses médicales, ça nous arrange plus.
Je suis d'accord, mais cette réponse-là, elle était un peu politico-médicale. Hein.
Bon, voilà, donc tu as fait un mix des deux.
Voilà.
Bon, et il y a une question avant la question, non, mais je vous laisse répondre à Abdoulaye Djoum. Non, après, parce qu'il y avait une personne, Christine. Christine qui dit, est-ce que le diabète va disparaître un jour? Est-ce que tout est fait pour? Voilà.
Alors, le diabète, Christine, ne peut pas disparaître un jour parce que vous l'avez bien compris. En préambule, je disais que c'était une affection essentiellement liée au niveau du pancréas. Quand le pancréas est déficient, quand ça ne marche pas, par quoi voulez-vous qu'on le remplace? Il y a des études qui ont été faites. Il y a des expériences qui ont été faites. Les greffes d'îlots de pancréas. Et finalement, si ça a marché, si ça marchait bien, il n'y aurait pas de souci. Aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord? Il y a eu des morts. Donc, les gens ont reculé. Je ne dis pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas devin. Je ne suis que médecin. J'ose espérer que le diabète disparaisse un jour. Effectivement, comme ça, les patients, on aura moins de problèmes d'insuffisance rénale, moins de gens à dialyser, moins de gens effectivement à amputer. Il y aura certainement moins de gens qui seront aveugles. Il y aura moins certainement d'AVC parce que le diabète participe à tout cela. D'accord? J'ose espérer. Mais vous savez qu'on a eu quand même de grandes avancées. Avant 1925, toutes les personnes diabétiques mouraient parce qu'on n'avait pas découvert l'insuline. Banting n'avait pas découvert l'insuline. Aujourd'hui, on met des pompes à insuline. Aujourd'hui, il y a des médicaments de plus en plus performants. C'est vrai. Quelquefois même, je pousse un coup de gueule parce que 80 à 90% des problèmes du diabète sont liés à des problèmes d'alimentation.
Justement, docteur, j'aimerais ça qu'on la garde un peu pour la fin, parce que je sais aussi que vous êtes nutritionniste. Voilà, et je vous laisse finir sur cette question pour enchaîner sur l'apnée du sommeil avec le diabète.
Alors, donc, c'est pour vous dire tout simplement, pour faire court, que les recherches se font quotidiennement. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'appelle les rats de laboratoire. C'est des gens qui sont vraiment très, très compétents, mille fois plus compétents que moi, et qui travaillent au quotidien, d'accord, pour essayer de découvrir et d'améliorer tout simplement la prise en charge de cette pathologie qui est un fléau mondial. C'est un véritable fléau mondial. Comme le disait tout à l'heure Medoun, dans une famille, tu as au moins une personne qui est diabétique. Et donc, vous comprenez bien que quelquefois, quand c'est génétique, le reste de la famille pourrait l'être. Les enfants ou les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants. Et vous imaginez que ça peut quelquefois décimer beaucoup de monde dans une famille et créer des problèmes.
D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 5000 morts par jour de personnes. Donc, 5000 personnes qui meurent de diabète par jour. Donc, c'est une personne qui meurt de diabète toutes les 7 secondes.
C'est pour cela, le plan d'action de tout à l'heure, Medoun, je pense qu'il faudrait qu'on prenne à bras le corps ce problème-là. Moi, j'essaye, à mon humble avis, enfin, au niveau de ma petite personne, de le faire. Donc, il faut savoir que depuis 2011, il y a à peu près une vingtaine de médecins sénégalais qui ont été formés, d'accord, grâce à mes partenaires qui travaillent avec moi, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, ils sont disséminés un peu partout dans le Sénégal. Et tous les 2 ans, je fais des formations par un congrès, d'accord. On n'a pas pu le faire durant la période du Covid, la Covid-19, et pour que les gens puissent effectivement former d'autres personnes à travers le Sénégal. Donc moi, j'essaie de faire ce que je peux à mon petit niveau, d'accord. D'ailleurs, j'avais un ami là qui me disait, un journaliste, qui me disait, mais grand, yo, avec tout ce que tu fais pour le Sénégal, tu n'en parles jamais. Je dis, je ne le fais pas pour que les gens en parlent. Je voudrais qu'effectivement que Askangui puisse en bénéficier et qu'il puisse se soigner. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de venir ici. Moi, j'ai des patients qui quittent le Sénégal, qui prennent leur avion, qui viennent me voir ici. Il y en a, le mois dernier, il y en a un qui venait de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était quelqu'un qui venait de la Haute-Volta. Et là, il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui venait du Gabon. Et les gens qui ne peuvent pas venir. Ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Parce que la personne qui prend son billet d'avion, il a les moyens. Donc voilà, donc ça veut dire que nos politiciens, ils devraient quand même quelquefois se poser les bonnes questions, tout simplement. Mais je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que peut-être que si j'étais à leur place, je ferais pire. Mais ils devraient se poser les véritables et bonnes questions.
Bon. Merci, alors maintenant, docteur.
L'apnée du sommeil. Djoum, tu poses une véritable question parce que l'apnée du sommeil, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que durant le sommeil, on sait bien que le sommeil, c'est quelque chose de très... Les gens pensent que durant le sommeil, on dort tranquillement. Ce n'est pas si vrai que ça. Hein. Moi, quand je me suis intéressé au problème d'apnée du sommeil, je me suis fait enregistrer moi-même mon sommeil. Et je me suis rendu compte que durant mon sommeil, je bougeais beaucoup. Je croyais dormir du côté droit. Et je me suis rendu compte que finalement, je dormais beaucoup sur le dos, sur le côté droit, à gauche, ainsi de suite. Et donc finalement, l'apnée du sommeil, durant le sommeil, il y a des gens qui restent dans des phases où ils ne respirent plus. Et quand ils ne respirent plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'apport d'oxygène, ils peuvent faire de la désaturation. Et cette désaturation-là est néfaste pour le cerveau et pour le cœur. On a eu des cas où des personnes bien portantes se sont couchées et le lendemain, on s'est dit, il ne s'est pas réveillé. Il a fait une mort subite. Et la relation qu'il y a entre diabète et apnée du sommeil maintenant pour y arriver, ça arrive le plus souvent chez les diabétiques de type 2 qui sont en obésité. Parce que quand vous êtes en obésité ou en surpoids, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ventre qui est pléthorique et ce ventre, plus il est gros, plus il prend de la place dans votre abdomen et plus il comprime un muscle qu'on appelle le diaphragme. Et ce diaphragme-là, c'est le muscle le plus puissant de notre corps. Et c'est ce diaphragme-là, c'est lui qui permet à nos poumons de bouger. Et quand nos poumons bougent, ils apportent de l'oxygène. Et donc, l'oxygène est réparti dans tout l'organisme. Donc, quand ce ventre comprime le diaphragme bouge moins. Enfin, il se contracte moins. Les poumons bougent moins. Alors, vous comprenez bien que quand vous êtes allongé, quand vous êtes couché, votre ventre, il ne diminue pas. Il est toujours le même. Il comprime votre diaphragme. Vous respirez moins bien et vous vous retrouvez quelquefois en phénomène d'apnée parce que du fait que vous avez, quand vous êtes gros, vous avez tout est gros, vous avez une grosse langue, d'accord? Et bien entendu, la langue vient obturer le passage de l'air, vient tomber, comme elle est grosse, elle vient tomber en arrière de la glotte et l'air qui devait passer tout simplement est réduit, donc l'air passe moins bien. Les poumons bougeant moins, et qu'est-ce qui se passe? Il y a moins d'oxygène. Et vous faites ce qu'on appelle de l'apnée. C'est ça l'apnée. Hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à respirer. Voilà. Apnée, c'est ça. Dyspnée, c'est difficulté respiratoire. Apnée, c'est le A privatif. Donc, qui dit que vous ne respirez plus. Et c'est ça qui est dangereux.
D'accord.
Et quand on fait des enregistrements de sommeil, alors, c'est magnifique. On voit du tout. Hein. On voit quand vous bougez, comment vous vous tournez, sur quelle position vous avez fait l'apnée, à quel moment. Et la désaturation. C'est-à-dire que si vous faites des apnées et que vous étiez toujours à 100% d'oxygène, on s'en fout. Mais quelquefois, il y a des gens qui partent de 100% et qui descendent jusqu'à 75% d'oxygène. C'est-à-dire qu'il leur manque un quart d'oxygène. Et quelquefois, ils font des apnées qui peuvent durer jusqu'à 1 minute, 2 minutes. Et il y a un retentissement sur le cerveau, sur le cœur, et ainsi de suite. Et là, si ces gens-là, d'abord, il faut leur demander de perdre du poids, mais entre-temps, le temps qu'ils perdent du poids, parce que comme ils aiment bien manger, il faut leur mettre un appareil, tout simplement, hein, qui a une pression continue, qui fait que cet appareil-là va leur envoyer de l'oxygène, et quand ils dorment, ils peuvent dormir tranquillement, parce que cet appareil va réduire les apnées, il y aura moins d'apnées, parce que tout simplement, l'oxygène, quand ils vont être en état d'apnée, l'appareil va envoyer de l'oxygène, pour qu'effectivement, qu'ils ne soient pas hypoxiques, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une diminution de la teneur en oxygène dans leur sang.
D'accord. Mais il y a des appareils quand même, docteur, qui ne sont pas, parce qu'on le met dans la bouche, et Richard, je parle en connaissance de cause, hein. C'est désagréable.
Alors, il y a différents types d'appareils, d'accord. Ce que vous dites là, c'est peut-être des orthèses.
C'est ça.
Voilà, c'est des orthèses.
Tout à fait. Orthèses mandibulaires.
Voilà, des orthèses mandibulaires, parce que quelquefois, c'est des problèmes d'avancée mandibulaire ou de rétrognathie, c'est-à-dire où le mandibule l'articulé dentaire est un peu décalé, et ça peut aussi créer des problèmes. Mais ça, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y a des gens qui ont une avancée mandibulaire, il y en a qui l'ont, en arrière, d'accord. Et ça va créer des problèmes anatomiques, et dès qu'on le décèle, D'accord ? C'est aussi une des causes d'apnée. Et dès qu'on les décèle, eh ben, il faut corriger cela. Et c'est là qu'on vous met des orthèses pour créer tout simplement, augmenter l'espace. Parce que dès que l'espace est réduit, ben, l'oxygène, l'air passe moins. Et dès que l'air passe moins, eh ben, il y a moins d'oxygène. Voilà.
D'accord. Juste avant la question de notre ami Kadhafi, vous êtes également nutritionniste. Et la question que beaucoup de diabétiques se posent, et même des non-diabétiques, comment doit-on manger lors de la rupture du jeûne et que doit-on manger ?
Alors, la nutrition fait partie de la même spécialité. Hein. C'est la partie maladie métabolique, comme je disais tout à l'heure.
Hein. D'accord.
Donc voilà, ça fait partie de la même spécialité. Donc, que devrons-nous manger finalement ? Mais je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ici la question, parmi les auditeurs, pourquoi on mange ?
On mange pour vivre.
Voilà, ça c'est les intellectuels. Je les appelle les intellectuels, ils mangent pour vivre. En fait, pour faire court, on mange pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on mange pour nourrir nos cellules, pour que ces cellules-là fassent leur travail correctement, pour être en bonne santé. C'est-à-dire que tout ce que vous devez porter à votre bouche, il va falloir y réfléchir. Et puis, Lamine, regardez bien comme le bon Dieu, quand même, il est magnifique quand même. Notre tête, elle n'est pas en bas, elle est en haut. Et au-dessus de notre tête, quel est le premier organe qu'il y a sur la tête ? Ce n'est pas les yeux, c'est le cerveau. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à ce que vous devez manger. Vous devez regarder ce que vous devez manger. Vous devez le sentir, parce qu'il y a des gens qui ne sont malheureusement, qui n'ont pas une bonne vue ou bien qui sont malvoyants. Vous devez sentir, et on sait très bien qu'eux, ils ont un odorat qui est très performant. Vous devez sentir ce que vous devez manger. Et c'est seulement à la troisième phase, à la quatrième phase, que vous avez la possibilité d'avoir vos mains ou votre fourchette qui est au bout de votre main que vous allez porter à votre bouche. Mais vous ne croyez pas que la nature est finalement si bien faite ? La nature est bien faite. On nous a bien créés. Parce que si on avait les pieds à la place des mains, ça aurait été compliqué. Si on avait la tête en bas, ça aurait été très compliqué pour réfléchir. Donc ça veut dire que l'ordre même du concept, de la conception de notre corps a été vraiment bien réfléchi par le Créateur. Donc franchement, moi je respecte les gens qui n'y croient pas. Moi j'y crois. Que ces gens-là aussi me respectent. Mais même ceux qui n'y croient pas, ils n'ont qu'à tout simplement se poser les bonnes questions, mais je leur laisse dans leur incroyance, d'accord ? Je les respecte, d'accord ? Mais dans l'ordre où on nous a fabriqués, il y a un ordre, et cet ordre-là, quand même, a un sens. Donc, tout ce que vous devez porter à votre bouche, il va falloir y réfléchir. Parce que dès que ça rentre à l'intérieur, c'est mort, hein ? Dès que ça rentre dans votre corps, c'est mort. La seule façon que vous avez de le ressortir, c'est de vomir. C'est mort. Après, il faut que ça suive le trajet. J'ai fini avec cette parenthèse-là. Maintenant, comment devrions-nous manger ? En dehors même du Ramadan, j'ai pour habitude de dire, parce que j'observe beaucoup, je parle de la théorie du soleil. Ce n'est écrit dans aucun bouquin. Et quand j'en parle à mes patients, les gens me disent « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » Ils doivent se dire il a fumé un joint, rassurez-vous, je ne fume même pas une cigarette, alors à plus forte raison, un joint. » C'est quoi la théorie du soleil ? Lamine, il y a un repère que tout individu sur cette planète Terre voit quand il a la chance de se lever le matin, c'est le soleil. Quand on se lève le matin, on se lève parce que le soleil se lève. Et le soir, on va se coucher parce que le soleil se couche. Et vous savez que la majeure partie de nos hormones, parce qu'on parle d'hormones, sont aussi fabriquées en fin de nuit et baissent en fin de soirée. Donc, ça veut dire que, là aussi, notre corps est bien fait. Je prends l'exemple du cortisol, qui est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui augmente le taux de sucre dans le sang. Vers 4-5 heures du matin, le cortisol est sécrété. Commence à être sécrété. Vers 20 heures, ça s'abaisse. Ça s'abaisse la moitié de la valeur qui est du matin. Et quand le cortisol baisse, on a envie de dormir. Quand le cortisol monte, on a envie de se réveiller. Donc vous voyez que ça a une importance. le soleil se lève, dans certains pays, vers 4-5 heures du matin. Vous allez à La Réunion, le soleil se lève tôt. Et dans les pays nordiques, le soleil se couche tôt. Mais dans tous les cas de figure, quel que soit là où vous vous trouvez, quand le soleil se lève, vous vous levez. Quand le soleil se couche, vous vous couchez. Et donc, quand le soleil se lève, qu'est-ce qu'il apporte à la planète? Il apporte les rayons solaires. Les rayons solaires, c'est quoi? C'est de l'énergie. Nous, quand on dort, quand on se lève, pour faire notre journée, on a besoin de quoi? On a besoin d'énergie. Où est-ce qu'on va trouver l'énergie? Énergie, énergie. Où est-ce qu'on va trouver, nous, l'énergie? Dans l'alimentation. Donc, vous voyez le lien qu'il y a entre soleil, énergie et alimentation. C'est pour ça que je parle de la théorie du soleil. Donc, le matin, quand on se lève, il faut bien manger. C'est pour cela qu'on dit que le matin, le proverbe dit, le matin, il faut manger comme un roi. Le midi, le soleil, il est où, Lamine? Il est au zénith, il tape fort. Donc, il faut encore beaucoup plus manger. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger comme un prince à midi. Mais les gens se disent, manger comme un prince, le prince, c'est l'enfant du roi, donc on doit moins manger. Alors, je vous fais une petite parenthèse. Le prince, c'est l'enfant gâté du roi. Il mange quand il veut, où il veut, comme il veut. Et qui plus est, le prince est appelé à remplacer le roi. C'est pour cela qu'on dit que, quand le roi est mort, on dit, le roi est mort, vive le roi. Parce qu'on a un prince qu'on nourrit, qu'on prépare intellectuellement pour qu'il devienne roi. Donc le midi, vous avez intérêt à beaucoup plus manger parce que c'est là où il y a les rayons du soleil qui tapent le plus fort. Je parle sur le plan physiologique déjà. Après, on viendra sur le plan du ramadan. Le soir, le soleil, il est où? Il est parti se coucher. Il n'apporte plus d'énergie. Alors pourquoi allons-nous manger le soir des aliments énergétiques? Autant le matin, c'est important de manger des aliments énergétiques. Autant le midi, c'est important de manger des aliments énergétiques parce qu'on a encore jusqu'au soir, de midi à 20h, c'est long. Mais autant le soir, on n'a pas besoin d'énergie pour aller se coucher. Donc, il est hors de question de manger des aliments énergétiques. Si on est d'accord sur ce concept qui est simple, qui est visuel, parce que le soleil, tout le monde le voit, comme je dis, si on se lève. Et si on est d'accord sur ce que je viens de dire, maintenant, on peut aller sur le ramadan.
D'accord, allons-y.
Si on part sur le ramadan, je vais commencer par la rupture du jeûne à l'iftar. Et je vais prendre l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Que mangeait-il? Tout simplement
des dattes.
Des dattes et du lait. Pourquoi? Ceci dit, il n'avait pas de banane, il n'avait pas d'orange, il n'avait pas de mandarine. Il n'y avait que des palmiers. Il avait des chèvres donc, et des chameaux. Donc, il pouvait effectivement avoir du lait. Mais c'est que en même temps, le bon Dieu lui avait donné que ça. Mais en même temps, ça a un impact. Les dattes, c'est énergétique. Il y a du sucre à l'intérieur. Les dattes, tout simplement, il y a des fibres à l'intérieur. Le lait, il y a du sucre à l'intérieur. Il y a du gras. Il y a des vitamines aussi qui sont à l'intérieur. D'accord? Aujourd'hui, nous, et qui plus est, lui, le fait qu'il mangeait des dattes, ça lui donnait de l'énergie parce qu'il ne restait pas sur place sous sa tente. Il allait prophétiser. Il allait marcher. Nous, on ne marche plus. Nous, on a notre 4x4. On va faire les courses pour le ramadan. D'accord? Quand vous allez, moi, j'aime faire les courses durant le ramadan parce que vous avez le mari qui a le chariot qui est rempli, la femme qui a le chariot qui est rempli, les enfants qui ont le chariot qui est rempli. Et qui plus est, c'est pour cela que les SDF, ils sont très contents, surtout à Marseille, durant la période du ramadan. Parce que non seulement les gens se gavent, alors que dans les sourates du Coran, il est dit qu'il ne fallait pas faire d'excès. Les gens ne partagent pas avec leur prochain, alors qu'il est dit qu'il faut partager avec son prochain. Ils préfèrent le jeter à la poubelle pour que les mendiants aillent le récupérer dans la poubelle. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas normal. D'accord? Et donc, il y a un gaspillage tel que, finalement, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. Quand on fait un jeûne, ce n'est pas pour, au moment de l'iftar, de manger beaucoup plus.
Donc, il ne faut pas remplir les tables, quoi.
Surtout pas, et surtout manger léger. Je vais vous donner un exemple, pour ne pas faire long. Vous pouvez couper le jeûne par des dates. Vous pouvez prendre du lait.
Les dates, on peut en prendre autant qu'on veut ou pas?
Peut-être pas autant qu'on veut, parce que je n'ai pas... c'est une grosse discussion que j'ai toujours avec mes patients et avec même l'imam. On dit qu'il faut prendre impair. Bon, une date, ça ne va pas suffire. Mais je pense qu'entre 3 et 5, ça devrait le
pas
faire.
Pas 10.
Non, pas 10, parce qu'il y a trop de sucre quand même à l'intérieur. D'accord? Le lait, je vais revenir aussi sur le lait. Moi, quelquefois, je me pose beaucoup de questions et j'aime bien aussi quelquefois exciter les gens. Le lait provient d'où, Lamine? De l'animal.
Ouais.
La vache, chèvre, brebis, enfin tout ce que vous voulez, chameau, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez déjà vu une vache donner son lait à un singe?
Non.
Non. Vous ne posez pas cette question. Moi, je me la pose. Pourquoi? Pourquoi je prends l'exemple du singe? Parce qu'on dit que le singe, c'est... Il est plus proche de l'homme.
De l'homme.
Le singe, quand il a tété sa maman, la guenon, comme nous, quand on a tété notre maman, mais il ne va pas boire, il ne va pas demander à la vache ni à la chamelle de lui donner du lait. Mais pourquoi nous, à ce moment-là, on va boire du lait de vache ou du lait de chamelle ou du lait de chèvre? D'ailleurs, la majeure partie des gens, enfin la majeure partie, les enfants à qui on donne le lait de vache ou quelque chose comme ça, quelques enfants font des allergies. Mais vous n'avez jamais vu un enfant faire l'allergie au lait de sa maman? Et même quand sa maman n'a pas de lait, dans nos traditions, vous avez la tante, d'accord, qui était à côté, qui peut-être a accouché en même temps et qui donne son sein aux deux enfants, à son fils et au fils de sa sœur ou de sa voisine. Et l'enfant ne fait pas d'allergie. Donc moi, je vous pose la question. Comment pouvons-nous, nous, en tant qu'êtres humains, aller absorber du lait d'un autre animal? Alors, vous allez me dire, mais comment on fait, docteur? Et je vous renvoie la question. Le singe, comment il fait pour boire du lait dès qu'il a fini de boire le lait de sa maman? En fait, il casse des noix. Il casse des noix de coco, des noix de soja, des noix d'amande, des noix de sucher pour pouvoir boire du lait et avoir essentiellement retrouvé toutes les qualités du lait qu'on retrouverait dans le lait de la vache. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ça c'est le côté écologique qui sort un peu, arrêtez de boire de lait du vache parce que d'abord, ça ballonne. Ce n'est pas bon sur le petit digestif, ça crée de l'inflammation sur le tube digestif. Je vous conseille plutôt de boire du lait végétal, c'est-à-dire lait de coco, lait d'amande, lait de soja, lait de sucher. Donc, j'ai fini les dates de lait. Vous pouvez continuer par votre assiette en mettant des protéines. Vous pouvez utiliser toutes les protéines. Les protéines, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est viande, poisson, jambon, œufs, fruits de mer. Tout est autorisé. Sauf éviter la viande rouge. Je m'adresse à mes frères sénégalais. Ils adorent la viande rouge. C'est pas bon le soir parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a du gras et c'est difficile à digérer.
Mais c'est très bon quand même.
J'ai pas dit que c'est pas bon. On peut manger à midi, mais peut-être pas le soir. Et vous rajoutez des légumes. Vous rajoutez deux morceaux de pain complet ou du pain noir qui est du pain au charbon ou du pain viking. Arrêtez de manger du pain blanc. Pareil, tout ce qui est farine blanche, il faut éviter. C'est trop sucré, c'est pas bon. Et vous pouvez vous limiter à ça. Vous allez me dire, mais docteur, on a jeûné toute la journée et on ne mange que ça? Oui, parce que c'est sain. Et vous aurez faim. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez aller vous coucher plus tôt. Parce qu'il y a des gens qui mangent toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, ils veulent se lever pour boire quoi? Ils vont boire un café. Alors que si vous allez vous coucher plus tôt, vous êtes en train de digérer, votre digestion ne sera pas. Va finir à 4 heures du matin à l'appel de la prière. Donc, quand vous vous levez à l'sour, c'est là qu'il faut manger votre repas du midi. C'est là qu'il faut manger, vous buvez votre café, vous buvez votre bouillon. Si madame, a vous avez la chance qu'elle puisse vous préparer le riz ou le couscous, c'est là qu'il faut le manger. Pourquoi? Parce que ça va vous tenir toute la journée. Si vous buvez qu'un café ou une bouillie, je vous prie de me croire que si Lamine, à 4 heures de l'après-midi, vous croise et vous dit « Bonjour, tu vas bien ?» Vous allez avoir envie de le gifler. Pourquoi? Mais Lamine ne vous aura rien fait parce que tout simplement, vous n'avez pas écouté les conseils qu'on vous a donnés. Parce que tout simplement, vous avez bu un café et une bouillie. À 4 heures de l'après-midi, vous avez faim. Et comme vous avez faim, vous devenez comme une larve. Vous êtes pressé que d'une seule chose, que qu'on vous dise « C'est l'heure de la rupture du jeûne ». Donc, un conseil que je vous donne, le soir, mangez léger. Je préfère commencer par là. Et le matin, mangez bien pour que toute la journée, vous puissiez tenir. Et vous pouvez même faire du sport. Alors, pas n'importe quel type de sport.
Justement, c'est une question que je vais poser et je laisse en même temps donc, à notre ami Kadhafi. Donc, j'ai une question donc, de Isaac Ngom, donc docteur Isaac Ngom, qui est aussi pharmacien, qui dit, docteur, justement, Que dites-vous sur le ramadan et ceux qui pratiquent le sport et quelles seraient les conséquences? Donc, vous gardez cette question et Ali Kadhafi.
Oui, absolument. Moi, ma question, c'est est-ce que le mois de ramadan se suit et se ressemble au niveau du corps ou du niveau de la géographie, de l'endroit où on se trouve, quoi?
Bien sûr. Parce qu'il y a des endroits où, effectivement, alors il ne faut même pas aller loin. Hein. Ici, on reste en France, Kadhafi. Quand vous quittez, quand vous êtes. Là, on a de la chance parce qu'on est au début du printemps. Mais rappelez-vous des périodes où, effectivement, le ramadan se passe durant l'été et que vous commencez à jeûner à 4 heures du matin et que vous coupez le jeûne à 22 heures, vous avez 18 heures. Vous éprouvez votre corps pendant 18 heures où la personne ne boit pas et ne mange pas. Vous comprenez quand je dis à 15 heures ou à 16 heures, quand on vous dit bonjour, vous avez envie de gifler la personne parce que vous avez faim et vous êtes énervé. Donc, le corps aussi est éprouvé durant cette période-là. Les cellules qui devraient recevoir une certaine quantité d'aliments, de nutriments et d'eau ne reçoivent plus. Il y en a qui, certaines cellules, qui font ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire qui pratiquement se meurent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ben, malheureusement, ils ne peuvent plus, je veux dire, faire leur travail correctement. C'est pour ça que je vous disais au départ, on mange pour être en bonne santé, pour permettre à nos cellules de pouvoir faire leur travail correctement, pour être en bonne santé. C'est ça qui est important. D'accord ? Donc, c'est sûr que, selon les endroits où on se trouve, le jeûne est très éprouvant. D'accord ? Mais bon, ça ne dure qu'un mois. Et quand même, le soir, vous remangez, heureusement. Et donc, pour revenir sur cette question-là, et qui, en même temps, faire le parallèle avec la question de mon ami Isaac Ngom, que je salue au passage, qui est un très brillant docteur en biologie, on peut faire de l'activité physique, mais attention, on va commencer dans les périodes de chaleur. Si vous allez faire de l'activité physique où vous allez dépenser beaucoup de calories et que vous allez essentiellement aussi beaucoup transpirer, vous allez aggraver le phénomène de la déshydratation. Donc, je conseillerais plutôt de faire de l'endurance, c'est-à-dire de la marche. C'est plus paisible. Ne courez pas, vous n'avez plus assez de glucides. Bah
pour nous, les jeunes là, on va pas marcher. Grave.
Non,
nous,
marcher.
On va courir.
Lamine, marcher. D'abord, une autre émission, tu m'inviteras, je t'expliquerai pourquoi courir, c'est pas physiologique. J'ai beaucoup couru jeune, je ne cours plus, je marche.
Donc tu nous dis de ne pas faire le footing.
Non.
Ah bon.
Et je vais te dire pourquoi.
Ouais.
Je vais te dire en 3 secondes pourquoi.
Très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes.
Très rapidement. Quand on court, déjà notre colonne vertébrale, notre rachis, est perpendiculaire au sol. On est d'accord.
Mmh.
Tu vois l'impact que tu as, qu'à chaque fois que tu cours pas sur toutes les jambes, tu cours chaque fois sur une jambe.
Tout à fait.
Donc ton axe de ton rachis, donc je veux dire, vibre non seulement, et en même temps est impacté par le sol sur lequel tu tapes. Mmh. Lui ne bouge pas. Donc tu commences à avoir des traumatismes. Cheville, genou, bassin, rachis. Ce sont les animaux qui sont prévus pour courir parce qu'ils ont 4 jambes. Enfin, 4 jambes. Ils ont 4 membres.
Mmh.
Ils balancent les 2 et ils envoient les 2. Donc voilà. Heureusement pour eux, leur rachis est parallèle au sol. Alors que nous, notre rachis est perpendiculaire au sol. Donc les forces, quand on parle de forces vectorielles, tu vois bien que la résultante, elle est au milieu. Donc elle est beaucoup plus proche du sol. Donc ce qui fait que les gens qui courent beaucoup, quand ils arrêtent de courir, ils n'ont que des problèmes essentiellement au niveau articulaire. Et ce n'est pas très bon. Donc voilà pour la parenthèse. Marcher, c'est plus physiologique. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas autant d'impact. D'accord ? Et donc, faites de la marche, rapide si vous voulez, d'accord ? Mais si je reviens au ramadan, une marche paisible, d'abord ça vous détend, d'accord ? Ça vous entretient effectivement, parce que vous bougez toujours votre masse grasse abdominale, donc qui est réduite, je parle des gens qui sont en surpoids, et il n'y a pas trop d'efforts, parce que quand vous faites de la course à pied, vos muscles ont besoin de sucre. Vous n'avez pas donné d'apport nutritionnel ni en glucides durant 18 heures, pratiquement, enfin, durant à peu près 15 heures, et vous voulez demander à ces muscles-là de pouvoir tout de suite faire un autre effort, mais alors qu'il n'a pas d'apport musculaire.
Mais que font les sportifs de haut niveau?
Bah, ils font n'importe quoi.
Là, les gens, ils ne seront pas d'accord avec
vous. Mais ils peuvent ne pas être d'accord. Regardez les sportifs de haut niveau. Quand ils arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent du poids.
Bon, c'est dommage que nous sommes arrivés à la fin, mais là, je sens que je vais avoir énormément d'appels sur mon téléphone.
C'est bien. Ça sera l'objet d'une autre question, d'une autre émission.
Tout à fait. On fera une émission sur ça. Donc, je vous laisse le mot de la fin, voilà, en 30 secondes.
Merci à tous. Je pense que c'était un très bon sujet sur lequel tu m'as amené. Tu vois que Djoum a posé une autre question. Je vois que Medoun va rester sur sa fin parce qu'on aurait pu développer essentiellement le plan d'action qu'on pourrait mettre en œuvre au Sénégal. Je pense que les actions, elles ne doivent pas être essentiellement gouvernementales ni ministérielles. Je pense que tout un citoyen, comme le disait Kennedy, devrait pouvoir se poser la question qui est la suivante. Que dois-je faire pour mon pays ? Ne pas se poser la question ce que le pays peut faire pour moi, mais moi, ce que je peux faire pour mon pays. Mais ça, c'est mon fondement. Et je terminerai par la voix sur un proverbe de Voltaire qui disait qu'en fin de compte, la politique doit être le premier des arts et le dernier des métiers. Alors que chez nous, c'est le premier des métiers et le dernier des arts.
Merci beaucoup, docteur. Mais j'espère que vous reviendrez après le ramadan pour qu'on puisse parler de sport avec, en tout cas, le jeûne, le carême, tout ça. Parce que là, il y a des choses à dire. Je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas d'accord.
tout le monde a la liberté de ne pas être d'accord. Bah bon. Le tout, c'est de pouvoir apporter une science et, effectivement, et en même temps une contradiction. Si le jour où vous me démontrez que effectivement ce que je dis n'est pas vrai, à ce moment-là, j'épouserai votre thèse. C'est ça la science.
D'accord. Et j'irai chercher des médecins sportifs aussi.
Tout à fait.
La mine.
Allez, merci docteur. La mine, oui, la Kadhafi, mine, mot de la fin.
La mine, c'est de souhaiter aux Sénégalais donc un bon ramadan et aussi que le prochain match contre l'Égypte soit belle, quoi. Que la fête soit belle, quoi.
Merci beaucoup. Ben, en tout cas, vous avez dit de ne pas trop critiquer Aliou Cissé parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. Vous avez vu, j'ai respecté, j'ai pas critiqué. Mais samedi prochain, si on se qualifie pas, on va parler de Égypte-Sénégal. Le Sénégal a perdu hier et j'estime que Aliou Cissé n'est pas toujours encore à la hauteur de certains changements. C'est bien de reconduire, mais quand même, Aliou, il ne faut pas changer à une minute de la fin quoi, du match. Bon, ça, ce sera l'objet de samedi prochain. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Et puis, je vous dis aussi que l'imam Ahmed Djeguen, aussi, durant le ramadan, fera aussi ses fins d'émission, comme nous l'avons fait. Wartan Ahmed Djeguen sur le ramadan, Inch'Allah, à partir de samedi prochain, vous faites que samedi le ramadan, il y aura donc pour tout le monde et on parlera encore du ramadan, du diabète, du sport, de la santé. Ça fait plaisir. Richard, bonne émission avec Étienne. Et puis à
samedi prochain.
Samedi prochain. Ciao, ciao.